Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, ce sont les pages d'un très beau roman d'Abdelkader Djemaï, Mokhtar et le figuier, paru aux éditions Le Pommier en 2022, que je vais avoir le plaisir de lire. Chapitre 1. Une vieille bâtisse. Quand il rentrait du domaine Manhes, Quider, le grand-père paternel de Mokhtar, montait un chemin caillouteux en serrant dans sa main un bâton en bois d'olivier. Un peu corpulent, coiffé d'un chech blanc et brun jusqu'au bout des oreilles, il mettait son bâton selon ses humeurs et sa fatigue, sous le bras ou sur l'épaule. Grignoté par les agaves et les buissons, le chemin menait au douar des Ouled Ahmed et sa dizaine de maisons en torchis. La maison de Quider était composée de deux pièces, l'une pour lui et sa femme Aïchouche, et l'autre pour Moussa, le père de Mokhtar. Il y avait remplacé ses deux frères aînés, Kadour et Tedjini, qu'il avait tour à tour occupés, avant de déménager comme leur sœur cadette Halima, après leur mariage. À la différence de Halima, qui était partie pour la grande ville, ses oncles n'avaient pas quitté la région. Ils venaient, les jours de fête comme à l'Aïd el-Kébir, leur rendre visite avec leurs épouses et leurs enfants. Dans la vieille bâtisse, dont les chambres étaient éclairées de lampes à pétrole au réservoir cuivré, il y avait un puits à la margelle en pierre grise, un four en boue séchée, un poulailler grillagé et un petit enclos pour les moutons. Le figuier, le seul arbre que son grand-père possédait, donnait ses fruits deux fois l'an et offrait son ombre fraîche au printemps et surtout en été. Dans la courette, qui sentait parfois l'encens et le bain-joint, et où affleuraient des cailloux jaunes et lisses comme des galets, Aïchouche, aidée par la mère de Mokhtar, cuisinait entourée du kanoun, du soufflet en cuir, d'un fagot de bois, de marmites, de casseroles et des assiettes en aluminium. Une grande jarre, un tamis, des seaux en zinc et des bassines découpées dans des fûts de carburant reposaient dans un coin. Près du figuier sous lequel le patriarche faisait la sieste après avoir ôté son chèche, ses chaussures et accroché son burnous à une branche, le four ressemblait à la carapace écaillée d'une tortue. Aïchouche sortait de son ventre les galettes d'orge rondes et épaisses. Quand elles étaient trop brûlantes, Mokhtar les voyait danser sur les paumes de ses mains brunes et noueuses. Au bout du chemin caillouteux et à gauche de la maison, il y avait une petite mare cernée de touffes de roseaux et de mousse verdâtre. Elle attirait les moustiques, les libellules et quelquefois les guêpes. Au printemps, c'était le royaume des têtards qui filait entre les doigts de Mokhtar. Du doigt, il pouvait, entre le vol frémissant des insectes et les nuées virevoltantes des étourneaux et des hirondelles, apercevoir dans la plaine prospère la ferme de Manhes, où son grand-père travaillait, et les gourbis au sol en terre battue du douar des Ouled Othman, perchés sur un coteau. À un jet de pierre de la route goudronnée qu'empruntait un joli autocar jaune, les rails du train de marchandises avec ses wagons jamais vides brillaient les jours de grand soleil. Dans le ciel d'automne, Mokhtar regardait les petits groupes de cigognes au long bec rouge qui descendaient lentement vers le sud. Un après-midi, il avait trouvé l'une d'elles morte au bord de la mare où elle était sans doute venue boire, le ventre blanc et les ailes tachées de boue. Ses pattes, elles aussi longues et rouges, étaient raides. Durant l'année, de temps à autre, des avions de ligne laissaient derrière eux une traînée blanchâtre. De plus en plus souvent, il entendait le bruit saccadé des pales des hélicoptères qui se dirigeaient loin vers les montagnes. Il se murmurait dans les douars que des hommes avaient rejoint le maquis. Chapitre 2. Le figuier. Un matin, comme si elle voulait lui présenter un membre de la famille qui lui était cher et que Mokhtar ne connaissait pas, Aïchouche le prit par la main et l'emmena au pied du figuier qu'elle aimait, lui dit-elle, pour sa bonté et sa générosité. Avec les yeux encore vierges et étonnés de la petite enfance, Mokhtar vit d'abord le tronc, tellement plus haut et plus vieux que lui. Il était aussi plus robuste que son grand-père et n'avait pas besoin de s'appuyer sur un bâton en bois d'olivier. Malgré son âge, ses cicatrices et les traces de sève qui ressemblaient à du sang blanc coagulé, il était solidement planté sur le sol en terre battue où cheminaient au milieu des feuilles mortes et des brindilles d'herbe des fourmis. En regardant les fourmis, Mokhtar imagina que les racines descendues du tronc se mettaient elles aussi à marcher, à courir sous la maison avant de se disperser et de se perdre dans le grand ventre de la terre qu'il croyait brûlant comme le four en boue séchée d'Aïchouche. Puis, il leva la tête vers l'intérieur de l'arbre, rempli d'ombre, de légers frémissements et de murmures indéfinissables. Il ressemblait à une sorte de puits végétal plein de fraîcheur, où la lumière, comme une pluie fine et douce, tombait à travers les rameaux pareils à de longs bras aux coudes noueux et à la peau légèrement grise. Dans les ombres qui se croisaient, ils n'arrivaient pas à distinguer le bout de leurs doigts qui devait sans doute toucher le ciel, ce ciel souvent d'un bleu limpide. Avec sa masse vert sombre, dont il découvrirait peu à peu l'odeur boisée, le figuier lui paraissait peuplé de mystères et de secrets. De danger aussi, lorsqu'il aperçut une grosse araignée noire entre deux feuilles luisantes qui avaient la forme de mains bien découpées. Velue et sournoise, elle faisait mine de sommeiller sur sa toile poussiéreuse, prête, il en était sûr, à sauter sans pitié sur son visage. Effrayé par son apparition, il devrait attendre longtemps pour oser grimper dans l'arbre où il risquait de perdre tous ses repères. Derrière son apparente sérénité, quels autres dangers, quels autres pièges pouvait-il dissimuler? Pour le rassurer, Aïchouche détacha délicatement à l'aisselle des feuilles une figue violette qu'elle lui offrit en souriant. Mokhtar eut alors la délicieuse sensation de retrouver dans sa bouche la saveur de sa chair rose et sucrée qu'il connaissait pour l'avoir plusieurs fois goûtée. Ce matin-là, avec sa grand-mère à ses côtés, pour la première fois il eut, malgré la présence de l'araignée, l'impression de voir vraiment le figuier, de prendre conscience de sa réalité palpable et charnelle. Chapitre 3. La Kouba. Entre les senteurs de l'encens et du benjoin qu'elle faisait brûler sur le kanoun, ce qui agaçait parfois son vieux mari, et ses visites au marabout, Aïchouche rencontrait à sa manière les esprits bienveillants et bénéfiques qui pourraient la rassurer, la libérer de ses inquiétudes et surtout préserver la paix de ceux qu'elle aimait. Menue, d'apparence fragile mais pleine de force, enveloppée dans son voile blanc et une longue bougie à la main, elle avait de bon matin l'habitude de se rendre seule à la koubba de Sidi Belaouel, dont la porte en bois de couleur marron était toujours ouverte. Sa coupole verte, qu'on voyait de loin, était surmontée d'un petit croissant en cuivre brun. Bâtie près d'un champ d'oliviers et entourée d'un muret de pierres sèches, elle accueillait chaque été la Ouada qui réunissait les familles des environs. badigeonnés à la chaux, ses murs brillaient, quand le soleil tapait fort, comme les rails du train de marchandises. Vêtue d'une robe toute simple, serrée à la taille par une ceinture de laine rouge, un fichu posé sur ses étroites épaules, Aïchouche, émue et le pas humble, pénétrait à l'intérieur de la koubba à cette heure-là déserte. Elle enlevait son voile et s'asseyait près du tombeau du saint, couvert de grands foulards et d'étoffes bariolées. Dans les lueurs tremblotantes de la bougie qu'elle avait allumée, le corps légèrement penché en avant, longtemps, elle se recueillait dans la pénombre fraîche et protectrice. Les lèvres pâles et les mains ouvertes tendues vers le ciel, elle implorait de sa voix douce Sidi Belawel de protéger les siens du malheur qui pouvait à tout moment, tel un ogre, les guetter sur les chemins broussailleux de l'existence. Une fois, elle emmena Mokhtar au hameau des Ouled Othman, où elle venait demander à Si Mahmoud, qui était aussi circonciseur, de lui faire un talisman. Le Taleb, qu'elle respectait et à qui elle faisait entièrement confiance, avait prononcé la Fatiha qui avait scellé le mariage religieux des parents de Mokhtar. 9 mois plus tard, son père, un ouvrier agricole de 23 ans qui, depuis son adolescence, louait ça et là ses bras, déclara la naissance de son premier enfant à la mairie de Saint-Lucien. La soixantaine, le visage osseux cerné d'une barbe rousse, Si Mahmoud avait un tatouage en forme d'arabesque sur le haut de la main avec laquelle il écrivait. Mokhtar le regardait attentivement tremper son calame dans une fiole d'encre faite d'eau et de laine brûlée et griffonnait une sourate du Coran. En sortant de chez lui, Aïchouche embrassa le bout de papier avant de le glisser entre ses seins ridés. Une fois de retour à la maison, Mokhtar la vit coudre soigneusement le papier dans un morceau de tissu vert et l'enfouir entre deux oreillers. Il ne se doutait pas que la main tatouée qu'il avait écrit tiendrait bientôt les ciseaux qui le circonciraient sous le figuier. Thank you.
À voix haute, Meredith Ledez.
Un vendredi, jour de la grande prière, Mokhtar fut le héros malgré lui de la fête qui allait remplir la bâtisse d'une fierté joyeuse. Pour cette heureuse occasion, son grand-père sacrifia l'un des moutons du petit enclos. Le matin, sa mère lui fit sa toilette près du puits, le vêtit d'une ibaya en satin brillant, le coiffa d'une jolie chéchia et le chaussa de babouches couleur jaune miel. La veille, elle avait étalé de la pâte tiède de henné pour colorer la paume de ses mains et la plante de ses pieds. Ses deux oncles, Kadour et Tejini, étaient là avec leurs épouses et leurs enfants qui l'entouraient gaiement. Ce qui l'intrigua, c'était la présence de Si Mahmoud qui n'était jamais venue à la maison et, sous le figuier, celle de la gassia, un plat en bois de noyer qui servait habituellement au couscous. En voyant le taleb sortir de son couffin des ciseaux, une fiole d'alcool et de la laine de mouton en guise de coton, il comprit. Pris de panique, il sentit ses petites jambes se mettre soudain à courir comme les racines du figuier sous la terre pour tenter de surgir autre part à la surface, sain et sauf, entier et serein. Au milieu de ses pleurs, Quider le rattrapa, le souleva du sol, l'embrassa sur la joue et écarta ses cuisses au-dessus de la gassia avant que les ciseaux, qui lui paraissaient immenses et bien aiguisés, ne tranche d'un coup son prépuce. Ses cris de douleur et son sang, s'égouttant sur le bois brun, furent salués par des youyous. Pour la première fois, Mokhtar vit son grand-père, le visage et les yeux rieurs, danser en son honneur en faisant tournoyer son bâton au-dessus de son chèche. Le lendemain, Aïchouch enveloppa le prépuce dans un morceau de tissu blanc et l'enterra, en murmurant une prière, près du tronc qui avait lui aussi ses cicatrices et ses traces de sève coagulée. Elle avait fait la même chose avec les placentas de ses belles-filles qui accouchèrent chez elle. Le figuier, qui est toujours généreux, leur donnera plus de lait pour leurs petits, expliquait-elle. Bien qu'il fût particulièrement choyé ce vendredi-là, et même dans la semaine qui suivit, Mokhtar, un peu fiévreux, ne put s'empêcher de penser à son bout de chair ensanglanté. Plus que l'araignée qui devait être aux aguets, il redoutait que les fourmis ne le déterrent et ne l'emmènent pour le manger tranquillement dans leur trou obscur et profond. Il aurait préféré qu'il finisse dans le bec d'un gentil moineau, qu'il offrirait à ses oisillons en train de l'attendre, impatients et affamés, au fond de leur nid. Chapitre 4. La ferme Manhès. Plus bas, au milieu de la plaine, s'étendait la propriété de Manhès, entourée d'eucalyptus, de blé, de vignes et de vergers. Sa belle maison à un étage possédait un porche majestueux, de grandes portes-fenêtres, un balcon fleuri à la rambarde torsadée, des colonnes cannelées et des tuiles mauresques. Elle était reliée par une voie carrossable à la route goudronnée où passait l'autocar jaune. Bordée de platanes, elle menait au village de Saint-Lucien et là-haut, derrière les collines boisées, vers les villes du nord. Ses corps de ferme peints en blanc abritaient le hangar à machines, les silos à grains, le chenil, l'étable et les écuries où travaillait le grand-père de Mokhtar. Comme Aïchouch, qui, n'ayant ni jardin ni potager à elle, chérissait le figuier, Quider aimait, sans en avoir aucun, les chevaux de toute race et de tout pelage. Sous l'œil du régisseur, Manuel Rodriguez, un andalou au teint olivâtre, en espadrilles et aux jambes longues qui logeait près des chais de couleur grenat, une soixantaine de fellahs travaillaient sur les centaines d'hectares de Manhès. Des terres qui, avant la colonisation, avaient appartenu à leurs aïeux. La plupart étaient employés dans les champs où l'on entendait toute l'année les bruits des tracteurs, des pompes à moteur, des semoirs, des camions et celui, en été, des moissonneuses-batteuses. Des petits nuages ocre de poussière de paille mêlés aux grains de blé et à des nuées d'oiseaux et d'insectes s'élevaient alors dans l'air brûlant. Pavée de pierres de granit et ornée de parterres de fleurs, la cour accueillait des réceptions animées par un orchestre de la sous-préfecture ou par un très beau phonographe 78 tours au bras en métal chromé, dont le pavillon ressemblait à une large oreille en aluminium bleuté. Pour le 14 juillet, Manresse faisait tirer un impressionnant feu d'artifice dont les gerbes flamboyantes éclairaient la nuit de la campagne et l'obscurité d'Édouard. Avec son épouse Martine, qui aimait les belles toilettes, les bijoux et les ombrelles en soie de tous les coloris, Manresse, dont la fille et le fils poursuivaient des études à Paris, recevait régulièrement le père Alexandre, le curé de Saint-Lucien, Georges Marchand, le maire de ce village, Michel Montoya, le médecin dont la fille, Maria Dolores, était fiancée à Manuel Rodriguez. Il y avait également le juge Auguste Bonnet, Alfred Rostin, le chef de la gendarmerie, et Roger Richard, le jeune capitaine qui commandait le groupement militaire installé près du chef-lieu. Manresse n'oubliait pas aussi d'inviter le caïd Hadj Saïd Boumerga, qui le servait avec zèle. Petit de taille, le visage farouche et la voix rauque, il criait en levant son fusil au ciel qu'il continuerait jusqu'à la fin de ses jours à traquer tous les ennemis de la France. Ancien spahi de la Grande Guerre, il se vantait en toute occasion d'avoir combattu sous les ordres du général Philippe Pétain. On l'entendait encore se flatter d'avoir fait le pèlerinage au lieu saint, d'être un polygame comblé et un allié inconditionnel de son ami Antoine Manès, qui le lui rendait bien. Originaire d'Alsace, d'où venaient les cigognes que Mokhtar voyait passer en automne, Manès, haut de taille, les yeux d'un bleu presque métallique et la cinquantaine autoritaire, avait, à cause du soleil incandescent, un visage de brique rouge. Il épongeait constamment la sueur sur son front et son cou avec des mouchoirs brodés à ses initiales qu'il sortait, l'air excédé, des poches de ses costumes de lin ou de sa salopette de travail. Souvent juché sur un pur sang arabe dont il avait confié l'entretien au grand-père de Mokhtar, il portait des bottes de cuir fabriquées à la main et une grosse chevalière en or massif qui étincelait de mille feux. Parlant de lui un jour, Larbi Ben Halima, un ami du grand-père de Mokhtar et l'un des plus anciens du domaine, avait dit, et personne ne devait jamais oublier sa colère sourde, « Manresse a tout, il est riche, puissant, et il nous paye avec une poignée de mouches. La différence entre nous et les chiens errants, c'est qu'ils n'ont pas de laisse. » Chapitre 5. La Wahada. Chaque année, les mouches, au ventre légèrement rebondi, se donnaient rendez-vous au couscous de la Wahada de Sidi Belaouel, qui réunissait la première semaine de juillet une centaine de familles. Elles se posaient alors sur les quelques moutons, dont celui du grand-père de Mokhtar, dépecés et suspendus aux branches des oliviers ou aux bras des charrettes dételées. Les carcasses attiraient aussi les chiens errants qui rôdaient, efflanqués et le museau à l'affût. On les tenait éloignés à coups de pierre ou en criant très fort. Tout en chassant les mouches d'une main nonchalante ou agacée, adultes et enfants n'oubliaient pas de tenir solidement leurs cuillères en bois, qu'ils portaient avidement à leur bouche quand elles contenaient un bout de viande. Les jours de disette, les plus pauvres et les plus vulnérables se contentaient d'un plat de kobis bouilli, une espèce de mauve qu'ils arrachaient par touffes sur les chemins et dans les champs. À force d'en manger avec le cardon et les artichauts sauvages, ils avaient les dents vertes et les lèvres noires. Dans l'air surchauffé de juillet, il buvait à grande rasade l'eau des outres et des gargoulettes en argile cuite enveloppées dans des chiffons mouillés. En sueur, les pans de leur burnous ou le bas de leur ibaya jetés sur leurs épaules, ils s'essuyaient les lèvres avec leurs doigts qu'ils rinçaient brièvement avec l'eau des gargoulettes avant de siroter le thé préparé sur des canounes ou sur les petits feux entourés de pierres. Ils le servaient, fumant et doré, après avoir cassé en morceaux des pains de sucre qui, inévitablement, attiraient, comme les gâteaux faits maison qu'ils avaient apportés, les mouches et parfois les abeilles et les guêpes. Au milieu de l'après-midi, ils apercevaient le turban tissé de fils brillants et le burnous rouge épinglé de médailles du caïd Hajj Saïd Boumerga, qui descendait sur son alzan la colline au sommet de laquelle il avait construit une grande maison en dur. Il y avait installé ses trois jeunes et jolies épouses que personne ne voyait jamais, sauf les mouches ou les canaris et les chardonnerets qu'il aimait élever. Comme à chaque wada, à laquelle il ne daignait pas participer, il préférait s'occuper, domaine où il excellait, du méchoui et des parties de chasse organisées par Manès. Il passait alors entre les groupes, l'air important et l'œil soupçonneux. Puis, satisfait de son inspection comme celle qu'il faisait régulièrement dans les douars qu'il surveillait de près, il enfourchait son alezan et repartait au galop, le canon de son fusil pointé vers le ciel, comme le faisaient les cavaliers dans les fantasias qui sentent l'odeur des chevaux, de la poussière, de la sueur et de la poudre brûlée. Pour la plupart des penaillés, chétifs et les pieds nus, les gamins sautaient et piaillaient autour de la koubba comme les oiseaux qu'ils chassaient avec un lance-pierre tressé avec des feuilles de palmier nain. Sous l'ombre d'un olivier blotti contre son père, Mokhtar regardait quelques-uns jouer aux osselets. À genoux, il les lançait en l'air en tentant de ramasser rapidement ceux qui étaient posés par terre. Un jeu d'adresse qui lui plaisait beaucoup. Pour leur éviter d'avoir des poux, certains des gosses avaient le crâne rasé. D'autres souffraient du trachome et de la tuberculose qui n'épargnaient pas non plus leurs parents et leurs proches. Faute de soins et de nourriture, beaucoup d'enfants décédaient en bas âge. Le ventre encore fécond de leur mère les remplaçait, avec la peur qu'elle ne les voie disparaître à leur tour. Plusieurs mouraient en couche, comme, il y a déjà longtemps, Kadra, la grand-mère maternelle de Mokhtar. C'était « Mokhtar et le figuier », un roman d'Abdelkader Djemaï paru aux éditions Le Pommier en 2022. Et vous avez pu entendre, au milieu de cette lecture, un morceau de Rabbi Abou Khalil, Sahara, extrait de l'album Blue Camel. Et moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle émission à voix haute. Bonne soirée!
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.